qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer.
Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison.
Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi. C'est sorti, c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent nos vies.
A chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine.
Les caves et les sirènes montant, que ce soit à Fleury ou à Fren, le temps fait la peine, et moi je traîne seul dehors.
Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres.
Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de.
Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège.
Politiqueur dehors, petit frère emprisonné.
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, on fera rire. Une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts.
Pour les gars de Gide Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Salut et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors aujourd'hui, nous sommes en équipe réduite avec Clara, la technique.
Salut, salut.
Et Gaël.
Oui, bonjour.
Et moi, c'est Tim. Alors, Casse-Muraille, c'est une émission de lutte contre les prisons. Que ces prisons soient pénales, comme le centre de détention de René Cassin, la maison d'arrêt à côté de Carquefou, ou encore l'établissement pénitentiaire pour mineurs à Orvault. Mais aussi que ces prisons soient psychiatriques, comme l'HP Saint-Jacques à Pierre-Mille ou l'HP Daumaison à Bouguenay, ou encore que ces prisons soient administratives, comme le projet de centre de rétention que l'État veut implanter à Nantes dans le but d'enfermer les étrangers étrangères. Alors nous, notre but à Casse-Muraille, c'est de s'attaquer à la société capitaliste qui a besoin des prisons pour se maintenir et pour permettre aux classes dominantes de continuer à exploiter la majeure partie de la population, c'est-à-dire les pauvres. Et du coup, pour lutter contre les prisons et s'attaquer à la société carcérale...
Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les prisons ?
Eh bien, nous, ce qu'on cherche, c'est diffuser en priorité la parole des prisonnières, des prisonniers ou des gens qui ont un proche enfermé. Le projet de centre de rétention administrative de Nantes va encore bien nous occuper aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Désolé pour les gens qui nous ont déjà entendu sur le sujet, mais tant que ce projet ne sera pas abandonné, on continuera à en parler. C'est aussi un aspect qui nous tient à cœur dans la lutte contre les prisons, empêcher que de nouveaux lieux de sévices ne voient le jour. Alors, dans cette perspective, et parce qu'on voit bien qu'à 4 ou 5, on n'ira pas bien loin, on aimerait mettre en avant la dimension collective indispensable à faire plier l'État et son administration pénitentiaire. On pense que la nécessité de lutte collective forte et puissante est valable aussi bien à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur. On va commencer par parler d'Egis aujourd'hui, une multinationale bien française en charge du projet de CRA à Nantes, mais dont les nuisances se répandent partout à travers le monde. Preuve supplémentaire, s'il en fallait. On va parler d'Egis. Et du coup, Egis qui veut construire le CRA et... qui en fait sévit partout à travers le monde, comme quoi prison et capitale sont indissociables.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Oui, donc Aegis, le sujet d'aujourd'hui. On est encore tout frais là-dedans parce que en fait, on a été invité ce matin à participer à une action collective contre Aegis. Et du coup, l'idée, c'était de venir tôt le matin, avant l'ouverture des bureaux d'Aegis. Il y a des bureaux là qui sont à Nantes, qui sont vers Paris 10, en quelque sorte. Et du coup, on est arrivé avant les employés et on a bloqué toutes les portes. Il y avait des tables de pique-nique qui étaient à proximité. Du coup, on les a déplacées et on les a mis devant les portes. Et puis, on s'est assis sur les bancs et on a empêché les employés de venir. Ça, c'était une action qui avait été organisée contre le projet de centre de rétention. Parce que, du coup, comme on le dit, c'est Aegis est en ce moment dans l'appel d'offres. En fait, c'est eux qui organisent avec l'État l'appel d'offres qui va servir à choisir, ça va être quelle entreprise qui va construire ou qui ne va pas construire le projet de centre de rétention. Et du coup, on trouvait ça important là, de pouvoir être là présent et puis à s'opposer physiquement. Parce que enfin, vraiment, nous, on pense qu'il faut, vraiment, vraiment s'opposer à ce projet-là. Et du coup, on voulait en profiter pour parler à la radio, raconter qu'est-ce qu'était Aegis et quels sont les différents projets qu'ils font. Alors, déjà, des prisons, hein, nous, c'est le sujet qui nous intéresse. Aegis, c'est une entreprise qui est un peu incontournable dans plein de domaines, dont les prisons. On les retrouve très souvent dans la plupart des prisons. Là, en ce moment, ils ont plusieurs contrats en cours. Ils ont des contrats à Fleury-Mérogis. Là, ils ont, en 2020, ils ont eu un contrat pour la maintenance et la rénovation de la sécurité logicielle et matérielle à Fleury. Il y a aussi là en Seine-et-Marne, ils sont dans un projet pour un centre pénitentiaire. Donc, ils lancent la consultation du marché conception-réalisation. Donc, c'est pareil, c'est encore, il me semble que c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est des contrats qu'ils ont pour aider les constructeurs des prisons, là, l'État, dans leurs relations avec les entreprises. Ils sont aussi à faire une étude. En 2020, ils ont fait une étude environnementale pour l'extension des baumettes. Ils sont aussi en Guadeloupe. Là, il y a l'extension prévue du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Et Entraigues aussi, qui est un projet pour construire une nouvelle prison. Donc, c'est Aegis qui a fait l'étude de faisabilité. Et par rapport à ça, il y a déjà eu des luttes là, contre Aegis. En particulier, là, en 2021, il y a eu à Montreuil une action collective qui a été de repeindre, relooker leur façade. C'était pas de la peinture, c'était de coller des affiches. Donc voilà, pour dire que sur les prisons, ils sont très actifs. Alors bien sûr, il y a d'autres entreprises. Hein. Il y a Vinci, il y a Bouygues. Enfin, tous les grands groupes font ça. Je pense qu'ils ne trient pas beaucoup leur activité. En fait, eux, c'est des entreprises capitalistes. C'est rentable, elles le font. C'est pas rentable, elles le font pas. Mais du coup, c'est quand même une partie importante là pour l'enfermement. Enfin, l'enfermement, c'est pas quelque chose d'anodin. Et ces entreprises, elles sont sans arrêt en train de se précipiter sur les marchés pour d'obtenir tel ou tel marché avant les concurrentes. Et puis tant pis s'il y a des gens qui finissent enfermés derrière, je pense qu'elles ne se posent même pas la question.
Bon, ça dépend. Ce matin, il y avait des gens qui disaient « mais moi, je suis tout à fait d'accord avec le centre de rétention, du coup, c'est normal qu'on vienne là pour travailler et pour faire ce qu'on a à faire ». Du coup, les gens, ils râlaient de ne pas pouvoir aller au boulot et ils râlaient... ils s'opposaient à nous en disant nous on est d'accord avec le centre de rétention, du coup c'est normal, enfin voilà, c'est leur boîte. Mais du coup, dans ce que tu dis, en fait, on voit bien qu'ils font leur bise là-dessus et qu'ils ont une expertise un peu, ils se posent un peu en expert de en fait, on est trop les rois de la construction des prisons, regardez tout ce qu'on a fait, et du coup, ils peuvent faire valoir aussi au fur et à mesure là de toute cette expérience qu'ils ont, et du coup, je pense que c'est comme ça qu'ils chopent des marchés.
Oui, puis c'est pas des petits marchés. Enfin, c'est des plusieurs milliards de dollars comme budget ou millions. Il faut me corriger, je suis vraiment nulle avec les chiffres.
Je pense des millions, mais.
Mais il me semble que c'est des marchés énormes et que du coup, c'est des entreprises qui se partagent un peu tout entre elles le bout de steak de ce que l'État est prêt à lâcher comme thune pour construire ces prisons-là. Et comme c'est des grands bâtiments avec plein de contraintes techniques spécifiques liées au fait que ce soit des bâtiments d'enfermement, j'ai l'impression qu'ils en profitent pour faire un beurre terrible sur tout ça. Et donc, si un jour l'État décidait de plus construire de prisons, ou si la lutte abolitionniste des prisons gagnait, ils seraient bien emmerdés parce que je pense qu'ils perdraient plein de thunes. Donc forcément, idéologiquement, ils ont aussi un intérêt à la politique répressive, pénale et contre les les personnes qui passent les frontières.
C'est sûr. Après, bon, je pense que c'est des entreprises qui sont capables de s'adapter. Et si un jour il n'y a plus d'enfermement, bah, ils se reconvertiront pour fabriquer des armes et des obus pour bombarder les gens. Et puis, ils trouveront des nouveaux marchés.
Oui.
Du coup, si on parle d'Aegis, on peut élargir aussi aux autres choses que font Aegis. Bon, c'est une entreprise d'ingénierie, donc ils sont dans plein de grands projets. C'est eux qui ont eu le contrat aussi pour l'aéroport d'Abidjan, qui n'est pas le contrat de construction, mais comment ça s'appelle quand ils s'en occupent, ils l'entretiennent de gestion, quoi.
De maintenance.
Ouais. Et de commercialisation. Enfin, c'est eux qui sont, enfin, une de leurs filiales là qui fait fonctionner l'aéroport d'Abidjan. Mmh. Enfin, ils ont des trucs comme ça partout dans le monde, des grosses infrastructures et aussi quand on connaît les différences de pouvoir entre les pays, c'est aussi une entreprise française qui va se retrouver à avoir des infrastructures très importantes dans d'autres pays qui ont moins de pouvoir sur la scène internationale.
Notamment les anciennes colonies françaises.
Oui, tout à fait. Et dans leur pratique, il y a régulièrement des histoires de corruption. Là, en particulier en Serbie, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, mais il y a un très très gros mouvement contre la corruption. À l'origine de ça, c'est un projet de rénovation d'une gare qui a été fait sans doute un peu à la va-vite et qui s'est effondré, qui a tué 15 personnes. Et c'était Aegis qui était une des entreprises qui a eu ce contrat-là. Et du coup, en Serbie, les gens ils considèrent que c'est une histoire de corruption. Et il y a un très, très gros mouvement qui s'est lancé contre la corruption. Il y a des gens qui ont été manifestés depuis Belgrade, qui ont fait 80 km à pied pour aller manifester, qui ont bloqué un pont pendant une journée. Enfin, il y a vraiment des mouvements, mais massifs, en Serbie. Contre la corruption suite à cette affaire où Aegis était impliqué.
Il me semble qu'ils sont impliqués dans d'autres projets aussi très critiquables. On a déjà parlé, il me semble, dans l'émission du fait qu'ils aient participé à la construction du métro à Jérusalem, tram.
Ouais. C'est, peut-être on peut le redire vite fait. Enfin, en gros, du coup, dans le droit international, il y a... Bon, je ne vais pas dire de date, je ne suis plus très sûr de moi, mais en gros, depuis longtemps, Jérusalem est partagée entre une partie sous autorité israélienne et une partie qui est censée revenir à l'autorité palestinienne. Donc Jérusalem-Est, c'est la partie palestinienne de la ville, tandis que Jérusalem-Ouest, c'est la partie israélienne. Et en fait, Israël a implanté des colonies, du coup, en Cisjordanie, à l'est de Jérusalem-Est, si vous suivez bien.
Oui.
Et en gros, Aegis, là où ils sont intervenus, c'est pour du coup concevoir le tramway qui relie Jérusalem-Ouest aux colonies qui sont à l'est de Jérusalem-Est. Et du coup, en fait, comme ça, ça participe à l'annexion tant désirée par Israël de récupérer en fait Jérusalem-Est et d'en faire sa ville à part entière. Enfin, puisque de toute façon. C'est ça qui vise Israël.
Oui, c'était même assumé dans la communication officielle de la ville de Jérusalem qui disait que le but de ce tramway, c'était d'aller desservir telle ou telle colonie israélienne qui se trouvait à des colonies illégalement implantées. Mais d'ailleurs, Aegis eux-mêmes, ils ont été dénoncés. En 2020, il y a l'ONU qui a publié une liste des entreprises illégalement implantées dans les territoires palestiniens occupés. Il y avait 117, je crois, entreprises une grande majorité des entreprises israéliennes, je pense presque une centaine, et puis il y avait une quinzaine d'entreprises internationales qui étaient concernées. Dedans, il y avait 3 entreprises françaises. Il y en avait une, c'était Alstom, qui est aussi qui a beaucoup de responsabilités dans la colonisation en Israël.
Et qui fait notamment les rames de train et de tramway.
Ouais. Et les deux autres, ils ont mis 2 fois Aegis, parce qu'il y avait la filiale Aegis Rail, justement, qui s'occupe de faire les trucs de rail, et le groupe Aegis en tant que groupe. Donc sur 3 entreprises, 2.
Il y a Systra aussi.
Ouais.
Alors quand même, on peut noter le nom.
Oui.
Systra. voilà, ils portent bien leur nom de facho, d'entreprise de facho. Et eux, c'est une société mixte entre la SNCF et la RATP.
En fait, si on raconte tout ça sur ces entreprises, c'est pas... Enfin, je pense que c'est parce que Aegis, c'est le premier nom d'entreprise qui est sorti là, à être impliqué dans la construction du CRA à Nantes. Ce qui a fait que ça donne envie d'enquêter un peu sur qu'est-ce que c'est que cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir... l'attaquer, la discréditer et lui mettre des bâtons dans les roues dans le but de l'empêcher d'avancer dans son travail de construction, mais aussi de dissuader les autres entreprises de construction, enfin qui sont impliquées dans le BTP et la sécurité, de s'impliquer dans ces projets de construction juteux, comme on l'a dit, mais en faisant savoir qu'il y a des gens qui sont en lutte contre ces projets-là et qui vont essayer de les emmerder. Et que du coup, ça ne va pas être que profitable de s'impliquer dans ces projets-là. Et donc, et en plus, là où je voulais en venir, pardon, c'est qu'en enquêtant du coup sur Aegis, on réalise leur implication dans la colonisation de la Palestine par Israël. Et que du coup, ça permet aussi de faire des ponts entre les différentes luttes qui nous semblent importantes à visibiliser dans l'émission et à mener, comme la lutte pour la libération de la Palestine.
Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, voilà, sur Aegis, je peux revenir à ce matin, l'action. Du coup, on était une quarantaine et beaucoup de gens, on se connaissait pas forcément beaucoup. Enfin, je pense que tout le monde connaissait une partie des gens, mais une autre partie se connaissait pas. Et du coup, beaucoup d'employés là, qui étaient là avaient l'air de ne pas comprendre qu'on vient de bloquer et avaient l'air de trouver ça dur de vivre un blocage comme ça pendant quelques heures le matin. Et en vrai, je trouve que les gens ne se rendent pas compte. On est gentils quand même parce que les moyens qu'on utilise, ils ne sont pas du tout comparables aux moyens en face. Enfin, nous, on n'a pas enfermé quelqu'un pendant 3 mois parce que ça collait avec notre vision du monde, notre projet et tout ça. Et donc les gens, ils étaient libres de leur mouvement, ils pouvaient rentrer chez eux, ils pouvaient discuter avec leurs amis, ils pouvaient avoir toute la liberté qu'ils voulaient. Et sauf rentrer dans les bureaux qu'on bloquait, donc ils ne pouvaient pas venir travailler. Bon, ils auraient pu se dire c'est chouette, ça nous fait une journée de libre. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui attendent les autres gens si jamais le projet de CRA se font. C'est des gens, ils ne vont pas perdre une heure. Enfin, là, il y a quelqu'un qui nous disait ouais, moi je suis père de famille, si je ne viens pas travailler maintenant, je vais rentrer plus tard ce soir chez moi et je ne verrai pas mes enfants et c'est quelque chose de dur. Bah, j'ai envie de lui dire, bah ouais frère, c'est dur, mais là, les gens là, qui vont être enfermés dans le projet de CRA, ils ne vont pas voir leurs enfants non plus. Et ça ne va pas être pendant 2 heures le soir, ça va être des galères et des galères, parce qu'en fait, non seulement il y a le CRA, mais il y a la possibilité d'expulsion derrière, de changer de pays. Et du coup, les gens, ils perdent la notion des échelles, je trouve. Ils regardent leur petit nombril, ils regardent ce qui se passe, mais... Enfin, nous, jamais, jamais on a enfermé quelqu'un pendant 3 mois.
Et on parle de 150 000 personnes en France qui sont enfermées chaque année dans les CRA. Enfin, avec le nombre de CRA construits, pas avec les futurs CRA qui vont permettre de doubler la capacité d'enfermement. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous ces projets de CRA aboutissent, il y aura 300 000 personnes chaque année qui feront des séjours de 1, 2, 3 mois dans les CRA. Enfin...
Ouais, carrément.
Freedom, item, meet him, where'd you read him? This one needs a brand new read him. Weed in the key, weed in the key into life, let's beat him. Weed him, smartphones, don't beat him.
Partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
C'était MIA Borders.
Ça y est, ils ont publié l'appel d'offres.
Non, c'est pas vrai.
Si.
C'est quoi l'appel d'offres?
C'est pour le projet de centre de rétention. Mais je continue, je préviens tout le monde.
L'appel d'offres est sorti.
Ils ont publié l'appel d'offres.
Depuis fin 2022, l'État projette de construire 11 nouveaux centres de rétention administrative, dont un à Nantes. Les CRA, ce sont des centres prévus par l'État pour enfermer les personnes à qui il refuse le droit de vivre sur son territoire. On peut y être enfermé sur simple décision administrative.
C'est pas nouveau les CRA en France, ça fait longtemps qu'on aurait dû les faire fermer.
C'est vrai que c'est pas nouveau, mais en ce moment, il y a quand même une intensification des discours racistes et xénophobes.
Ouais, carrément. D'ailleurs, les derniers temps à Nantes, il y a eu des grosses opérations de contrôle qui ciblaient spécifiquement les personnes étrangères ou racisées dans le but d'arrêter des gens en galère de papier.
Fermer les CRA, c'est une étape importante pour faire cesser les persécutions contre les étrangers étrangères. Mais vu la situation actuelle, ça va pas être facile. Pour l'instant, l'urgence, c'est d'empêcher la construction d'un CRA supplémentaire. Si on se mobilise tous, maintenant, on a une chance d'y arriver.
Comment on peut faire ?
On pourrait écrire un journal et le distribuer aux arrêts de tram.
Ouais, c'est une bonne idée. Je suis chaud pour faire des illustrations. Camille, tu peux écrire un article ?
Oui, sans problème. Mais j'aimerais qu'on organise des actions pour les entreprises qui vont bosser sur le CRA.
Ah oui, c'est important aussi.
Et j'ai des cagoules et une paire de menottes chez moi. On pourrait enlever et séquestrer Retailleau.
Ouais, attendez. Avant de faire tout ça, il faut qu'on prévoie une grande assemblée générale pour s'organiser à plus grande échelle.
Carrément, je suis d'accord avec Fred. Il faut que tous les groupes politiques participent.
Oui, et peut-être on a besoin de discussions collectives pour analyser la situation et pour mener des actions collectives.
Sans compter qu'il y a déjà des groupes qui luttent depuis longtemps contre le projet de CRA. Faudrait aussi avoir leur avis.
Bon, bah tout le monde est d'accord. On n'a qu'à lancer une grande AG anti-CRA, alors super.
Jeudi 20 mars à 18h à B17, Assemblée Générale anti-CRA.
C'est où B17 ?
B17, c'est un local associatif autogéré au 17 rue Paul Bellamy à Nantes. Tu vas au fond de la cour, la deuxième, et c'est au-dessus du garage associatif, l'atelier.
Attends, j'ai pas noté dans mon agenda. Tu peux me redire la date ?
C'est jeudi 20 mars à 18h.
Et voilà, et donc vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille. Vous aurez reconnu... nos voix, hein. Mais c'est un petit jingle qu'on a fait du coup pour essayer d'annoncer massivement cette AG à venir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de l'AG, je voulais juste préciser que quand on parle de l'appel d'offres dans ce jingle, c'est Aegis qui a envoyé un appel d'offres, enfin, qui a publié un appel d'offres et qui a jusqu'à la fin du mois, enfin qui invite à recruter des entreprises jusqu'à la fin du mois pour que ces entreprises puissent se lancer dans la construction du CRA. Voilà. Donc, c'est pour faire le lien avec le début de l'émission. Et voilà, et du coup, maintenant, on va parler de cette Assemblée Générale qui est du coup organisée la semaine prochaine à B17.
Et si vous avez aimé le jingle et que vous voulez le partager avec des proches, on l'a mis sur nos réseaux. C'est possible de le retrouver sur YouTube en short. Et il est aussi sur Instagram, il est aussi sur... sur Blue Sky et sur Mastodon.
Oui, carrément. Du coup, n'hésitez pas à le diffuser pour qu'on soit un maximum de gens la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, l'Assemblée Générale, voilà. Du coup, cette AG, là, on a lancé une invitation à plein de groupes qui existent déjà, des groupes militants sur Nantes, enfin, militants politiques ou syndicaux. Et
c'est des groupes sur les questions carcérales ou plus large que ça ?
Non, globalement, enfin plutôt. Mais après, c'est que nous, on voit la lutte carcérale comme une lutte révolutionnaire qui est là pour changer le système dans sa globalité. Et du coup, on a invité des groupes qui s'inscrivent dans ces lignes révolutionnaires globalement.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et du coup, stager, il va y avoir un peu de temps, quoi. Le premier, ça va être de présenter les forces en présence, présenter les groupes qui sont déjà impliqués dans la lutte contre le CRA, qui ont déjà écrit des trucs ou fait des actions ou quoi, et qui vont pouvoir comme ça raconter. Et puis ensuite, on va essayer de parler de comment structurer cette lutte, comment arriver à la victoire, à savoir l'abandon du projet de CRA.
Oui, du coup, s'il y a des gens qui ne sont pas dans ces milieux-là, dans ces groupes militants, qui ne connaissent personne, est-ce qu'ils peuvent venir ? Est-ce qu'ils vont se sentir à l'aise ?
C'est aussi le but pour nous d'organiser une Assemblée Générale. Enfin, le principe de l'Assemblée Générale, c'est que chaque personne qui vient compte, chaque voix compte, et du coup, chaque personne est libre de donner son avis et d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Et nous, vraiment, le but du jeu, c'est que... les gens ne soient pas obligés de faire partie d'organisations, ne soient pas obligés d'être déjà structurés pour pouvoir participer à la lutte, mais que du coup, de trouver une place dans cette lutte et peut-être de trouver une place dans un nouvel organe de lutte, si c'est ça qui sort de l'AG. Mais en fait, voilà, nous, on a un peu pensé les choses et tout pour faciliter la discussion ensemble, pour essayer de voir comment agréger là, tous les gens qui se sont positionnés ou sont à même de se positionner contre le CRA. Mais après, tous les gens autonomes à qui ça parle sont largement invités à nous rejoindre et à venir participer à ça.
Oui, oui, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que les autres personnes vont se connaître entre eux. En fait, c'est plein de gens qui viennent de plein d'endroits. Donc, si vous connaissez personne, je pense que vous ne serez pas les seuls et que c'est vraiment aussi un endroit où on peut se rencontrer et puis commencer à venir s'investir contre le projet de centre de rétention. Tu étais en train d'expliquer le programme, je t'ai coupé.
Ouais, non, mais c'était ça. Enfin, de toute façon, on ne voulait pas tenir très, très longtemps sur... Enfin, on ne voulait pas plus développer que ça, je pense. De toute façon, le programme, on va le publier un peu plus là dans les jours qui viennent.
Ouais.
Et voilà, et peut-être tu voulais insister sur la dimension collective.
Oui, bah, je me disais aussi l'intérêt d'en parler dans l'émission où on ne s'adresse pas spécifiquement à des personnes militantes. C'est pour faire valoir le fait que nous, on trouve du sens à s'organiser collectivement et on a l'impression que c'est dans les luttes collectives qu'on arrive à obtenir soit que des projets comme le CRA ne voient pas le jour. Ou alors, moi, ça me faisait repenser à plein de luttes collectives qui ont eu lieu dans les tôles pour protester contre une diminution des promenades, protester pour la suppression des QHS à l'époque, mais même plus récemment pour le prix des cantines ou pendant le confinement, pour qu'il y ait des mesures sanitaires qui soient prises pour le Covid, pour les personnes qui sont enfermées en tôle et confinées en tôle.
Mais ensuite aussi pour retirer les mesures sanitaires qui emmerdaient les gens et qui étaient une manière en fait, de brimer les prisonniers encore un peu plus, en laissant les vitres, en laissant... à la fois, il y avait les matons qui rentraient, qui sortaient, qui, eux, allaient dans leur famille. Et en fait, c'était eux qui pouvaient ramener le Covid en tôle, ce n'était pas les prisonniers. Et les prisonniers-prisonnières qui étaient derrière une vitre et qui ne pouvaient plus rentrer en contact avec leurs proches sous couvert d'eux, de contamination, de ci, de ça, alors qu'en fait, c'était juste un moyen de répression supplémentaire, quoi. Et voilà, de toute façon, l'État, c'est toujours comme ça. Enfin, l'État, l'administration, c'est toujours comme ça qui fonctionne, de prendre, par rapport aux prisonniers, en tout cas, de prendre le moindre petit espace supplémentaire pour bien mettre la misère aux gens.
Oui, puis les gens qui disaient, moi, j'ai pas le droit d'avoir des contacts avec ma famille, mais en fait, pour des raisons sanitaires, je trouve ça important et je veux éviter tout contact physique. Et qui demandaient aux matons de ne pas s'approcher d'eux et de ne pas les fouiller, c'était pas pris en compte.
Mais du coup, si on fait une AG, on ne sort pas cette formule de notre chapeau, c'est qu'on a de la reconnaissance pour des luttes qui se sont passées à l'extérieur des prisons, mais aussi dans les prisons, où les gens se sont regroupés pour parler de ce qui... Elles avaient envie de changer et s'organiser pour construire un rapport de force contre l'État, l'administration pénitentiaire ou des patrons, etc.
Porter des revendications collectives, mettre des mots aussi sur pourquoi on lutte, qu'est-ce qu'on veut, notamment dans la prison. Il y a toujours aussi ce truc de gratter toujours un peu plus pour avoir toujours un peu plus.
Se mettre en action ensemble après, quoi.
Ouais, voilà.
Et bon, voilà. Et du coup, on voulait en profiter pour rappeler que. On n'est pas souvent au courant d'actions collectives qui se mettent en place dans les tôles, évidemment, puisque ça se passe derrière les murs des prisons et que les travailleurs de la prison et les journaleux ne font pas sortir ça. Et peut-être qu'on n'est pas connecté sur les bons réseaux aussi. Mais en tout cas, nous, on est prêts à soutenir ce genre d'initiative et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous demander du soutien, du renfort, avec les forces qu'on a qui ne sont pas... Enfin, on ne va pas faire des trucs de ouf, mais on est là, quoi.
Oui, il n'y a que vous qui pouvez nous renseigner sur ce qui se passe dans les prisons.
Carrément. Et nous, on peut relayer des paroles qui racontent des luttes qui ont été menées à l'intérieur. On peut relayer aussi des plateformes de revendication. On peut relayer des petites victoires ou même des défaites à des moments. Des fois, on fait des tentatives et pour qu'il y en ait une qui marche, il y en a 5 ou 6 qui n'ont pas marché. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les raconter. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se transmettre des cultures de lutte qui permettent de savoir en fait comment attraper le taureau par les cornes. Je parle de l'administration notamment. Et comment se mettre ensemble collectivement. Enfin, voilà. L'AG, ça commence. Pour moi, un des premiers trucs, c'est se parler. Dans une société là où on est de plus en plus atomisé, où on se retrouve chacun seul avec nos petits problèmes et ou nos grosses galères. Et en fait, c'est aussi des fois en connectant à 3-4, en discutant, en se mettant d'accord sur ce qui nous fait galérer profondément, personnellement, y a toujours quelqu'un qui va dire moi, en fait, c'est pareil, et puis moi aussi, et puis moi aussi. Et à partir de là, on peut construire quelque chose. À partir de là, on peut allier nos colères pour renverser le système, en fait.
Ouais.
enfin, et que ce système, ce soit à l'administration quand on est enfermé ou que ce soit à l'État à l'extérieur, puisque bon, voilà, je crois que tout le monde a capté qu'on fait le lien entre ces grosses machines.
Et même avant, même qu'il y ait des luttes qui arrivent à se mettre en place, si vous avez des revendications, si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aide à porter, à tenir à la radio, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être c'est le moment où on peut redonner nos contacts là. C'est possible de nous contacter par téléphone au 07 82 98 43 59. Merci, Thierry. Et c'est possible de nous écrire aussi pour les gens qui n'ont pas accès au téléphone, qui n'ont pas accès à Internet. C'est possible de nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Pelmelami, 44 000, Nantes.
Ouais, après, on est sur les réseaux et tout, mais ça, vous nous trouverez. Et voilà, vous voyez ce qui vient de se passer, c'est terrible, on a rappelé les contacts. Et ça.
Ça veut dire que c'est la fin de l'émission.
Ah là là, on est bien désolé.
Mais on va vous retrouver la semaine prochaine.
Et du coup, on fait tout dans le désordre. Maintenant, c'est l'agenda. On rappelle, jeudi 20 mars, il y a l'Assemblée générale contre le CRA à Nantes. On espère être le plus nombreuses possible.
Désolé, si vous êtes enfermé, vous n'allez pas pouvoir venir, mais on vous tiendra au courant de qu'est-ce qui se passe.
Et vous pouvez nous envoyer des contributions par courrier.
Carrément, force.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.